faut créer nos luttes par nous-mêmes.
Nous, on a fait total contre-tête. On est parti voir les témoins, on est parti faire des experts.
L'enjeu, c'est de ne pas demander une subvention, de ne pas s'institutionnaliser et garder l'indépendance politique.
Donc, il y a une critique pour avoir une plateforme de recherche en sciences sociales depuis les luttes. Et pour partager tout ça, on fait des documents, des clips, des brochures. Et ça, c'est les podcasts.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu?
Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend?
Mais qui est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Une émission qui part à la recherche du sujet révolutionnaire.
Le scénario du film était écrit depuis longtemps. Le capitalisme allait s'écrouler sous le poids de ses contradictions et il allait être précipité dans sa chute par l'acteur principal, le prolétariat. Tout était réuni pour un bon film. On avait un méchant bien méchant, la bourgeoisie. Un suspense de ouf. La possibilité même de la vie sur Terre était menacée par le méchant. Sauf qu'en plein milieu du tournage, l'acteur principal a disparu. Cela veut-il dire que le méchant va nécessairement gagner ? Est-ce que l'acteur principal va revenir ou faut-il songer à le remplacer? Et si oui, par qui? Le peuple? Les 99%? Le vivant? Les beaufs et les barbares? Ou est-ce que c'est le script entier qu'il faut réécrire? En tout cas, nous on aimerait bien que le film arrive à sa fin. Et tant qu'à faire, qu'il finisse bien. Dans cette émission, nous partons donc à la recherche du sujet révolutionnaire. Et on vous emmène avec nous.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido.
L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force à nos victoires.
Pour commencer notre enquête, on va se demander qui est le « nous » dont parlent les chansons qu'on vient d'entendre. Voilà les éléments que nous avons. Depuis grosso modo les années 70, le prolétariat est quasiment disparu. Les politiques de la carotte et du bâton menées depuis une cinquantaine d'années ont conduit à une paix sociale relative, durant lesquelles le capitalisme s'est fait passer pour éternel. La contre-révolution libérale a mis du plomb dans l'aile de l'oiseau prolétaire. Management, atomisation, désindustrialisation, automatisation, informatisation, précarisation, le mouvement ouvrier est en PLS. Mais le prolétariat s'est également pris des balles dans le dos. De nombreuses critiques ont émané de son propre camp. Si certaines franges du mouvement révolutionnaire ont toujours été réfractaires au marxisme, depuis les années 70, cette défiance a progressé et la lutte des classes a peu été placardisée. On peut citer André Gorz, un poids lourd de l'écologie politique, qui a lâché à cette époque un énorme pavé dans la mare marxiste en écrivant ses adieux au prolétariat. Mais il n'est clairement pas le seul à avoir tourné le dos au prolétariat pour des raisons diverses. De nombreux sujets révolutionnaires de substitution ont été proposés pour tenter de remplacer le prolétariat. Dans cette émission, on va tenter de voir ce qui, dans ces débats théoriques, peut nous intéresser pour nourrir nos pratiques de lutte. Cette émission se découpera en deux épisodes. Dans le premier épisode, on se demandera quelle est la manière la plus pertinente de désigner le « nous » et le « eux ». Le bon vieux prolétariat vs bourgeoisie, fait-il encore l'affaire ou faut-il lui préférer l'opposition 99% vs 1% ou encore peuple vs oligarchie? Ou encore des termes comme citoyen, citoyenne ou habitant-habitante? Peut-être même qu'aucune de ces manières de nommer le « nous » et le « eux » ne convient et que l'on doit en inventer d'autres. On s'interrogera sur les implications stratégiques du choix de chacun de ces termes. on verra que notre analyse de la société influence la manière dont on va nommer le sujet révolutionnaire, qui influence en retour notre manière de comprendre le monde et de lutter. Définir un « nous » et un « eux » est essentiel pour orienter la conflictualité sociale dans un sens ou un autre, et mobiliser largement. Les réactionnaires l'ont très bien compris. Ils opposent le « nous » des Français de souche au « eux » des étrangers, des immigrés, des habitants et habitantes des quartiers populaires, qui viendraient mettre en péril à la fois le bien-être matériel des Français de souche, mais aussi leur identité. C'est notamment pour ne pas laisser des grilles de lecture racistes, mais aussi confuses et réformistes prospérer, et remplacer les autres clivages, notamment économiques et politiques, que nous nous sommes demandé, depuis une perspective révolutionnaire, comment définir et nommer la conflictualité sociale aujourd'hui. On se posera ces questions avec nos invités. Par ordre d'apparition, Adeline Delépinay, militante qui vient des milieux de l'éducation populaire et autrice du livre « Comment s'organiser ?», qui traite notamment de la question qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, Aurore Quéclin, militante féministe et sociologue, qui a récemment écrit une tribune dans le magazine Politis, qui critique l'utilisation faite par Jean-Luc Mélenchon des termes de « peuple » et d'oligarchie. Et enfin, Guillaume Davranche, militant à l'Union communiste libertaire, qui a contribué il y a quelques années à la rédaction d'un dossier intitulé « Les classes sociales, l'éternel retour » dans le magazine Alternative Libertaire.
Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu.
Et j'ai crié, crié, prolétariat, pour qu'il revienne.
L'opposition entre prolétariat et bourgeoisie sonne un peu désuète aux oreilles les plus jeunes, tant le prolétariat a disparu des discours militants. De nombreux prétendants en titre de sujet révolutionnaire se proposent au casting. Et voici celui qui est en pole position, que l'on retrouve partout, et notamment dans la bouche du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, j'ai nommé le peuple.
Dans le socialisme, on explique qu'il y a une conflictualité dialectique dans l'histoire, qui anime l'histoire. Alors le serf contre le seigneur, l'esclave contre le maître, le bourgeois contre le prolétaire. En quelque sorte, cette phrase s'adresse à ceux qui se réfèrent à cette forme de la conflictualité par des classes sociales. La nouveauté théorique que j'introduis, c'est dire il y a un nouvel acteur et il s'appelle le peuple. Malheureusement pour moi, j'ai pas trouvé d'autres mots. Le peuple, c'est des gens qui sont dans une relation de domination au moment d'accéder au réseau du collectif sans lesquels ils ne peuvent pas produire leur existence. Si bien que je dis à tous mes camarades, si vous continuez à penser dans la dichotomie bourgeois-prolétaire, non seulement les bourgeois n'y sont plus, c'est une oligarchie, et les prolétaires, leur condition a été généralisée à toute la population, et c'est le peuple. Par conséquent, ça dit, le clivage du 21e siècle, ça n'est pas bourgeois-prolétaire, c'est peuple-oligarchie, le peuple intégrant les prolétaires. J'en demande pardon à nos auditeurs, tout ça peut paraître un peu sophistiqué, mais la théorie a besoin d'idées claires.
En écoutant Jean-Luc Mélenchon, on ne peut s'empêcher de penser à cette citation de Marx sur le sujet. Il disait, à peu de choses près, « À chaque fois que j'entends le mot « peuple », je me demande quel mauvais tour on joue au prolétariat. » Mélenchon a raison, au moins sur un point. C'est vrai que ce débat sonne un brin théorique, et qu'on se demande si ça vaut vraiment le coup de pinailler. Nous qui faisons cette émission, on n'est pas des théoriciens, des théoriciennes, et, à vrai dire, on n'y connaissait pas grand-chose à ces questions avant de commencer nos recherches. On est des militants et militantes révolutionnaires qui se situent en bas à gauche, c'est-à-dire d'inspiration communiste libertaire. On a ressenti le besoin de passer par un peu de théorie pour orienter notre pratique, savoir où et comment orienter notre activité militante, avec qui lutter, contre quoi ou contre qui. C'est pour ça qu'on a été voir des personnes qui, de par leur parcours militant et intellectuel, se sont posé la question de comment définir et nommer le « eux » et le « nous ». La militante Adeline Delépinay s'est posé ces questions après son expérience dans le community organizing, ou organisation communautaire, qu'elle présente comme une sorte de syndicalisme à l'échelle d'un quartier, et qui vise à accompagner le développement du pouvoir d'agir des habitants et des habitantes, afin qu'ils et elles se sentent en mesure de lutter, notamment pour améliorer leurs conditions de vie immédiates.
pense que la façon dont on se définit, donc dont on définit notre nous, c'est-à-dire qui on se regroupe, quel est le sujet finalement de la transformation sociale qu'on va essayer de mettre en œuvre, elle est importante, encore une fois, pas juste pour un conflit de définition, mais pour qu'est-ce qu'on met derrière et quel projet on, quelle lecture de la société on a et quel projet on essaie de mettre en œuvre. Et ce qui me marque, c'est qu'il y a tout un vocabulaire qui est plutôt dans la sphère militante et qui a tendance à être considéré comme un peu ringarde, qui s'appelait travailleur-travailleuse, prolétaire, exploité, opprimé. Tous ces vocabulaires-là, c'est une première façon de s'appeler et ça détermine le fait qu'on se retrouve vraiment dans des rapports sociaux d'exploitation et d'oppression et qu'a priori, c'est contre ces rapports sociaux-là qu'on va essayer de se regrouper pour pouvoir lutter et les transformer. Donc, le fait de choisir ces vocabulaires-là, ces vocables-là, est vraiment pas neutre, je pense, pour définir ce qu'on va faire ensemble. Une deuxième façon de se définir, et qui est assez à la mode, notamment dans les sphères en lien avec les institutions, c'est de se définir comme citoyen-citoyenne et comme habitant-habitante. Là, quand on se définit comme ça, on ne définit pas d'antagonisme. On est a priori, alors pas tout le monde pour de vrai, mais enfin, on feint de croire qu'on est tous et toutes citoyens-citoyennes et qu'on est tous et toutes habitants-habitantes. On a ça en commun. Donc, quelque part, ça concerne tout le monde. On serait tous et toutes dans le même bateau. Parce que l'utopie de citoyens-citoyennes ou d'habitants-habitantes, c'est le vivre ensemble. Et je pense que c'est notre utopie aussi, le vivre ensemble. On a envie, si on prend, au-delà du fait que ce soit un terme complètement galvaudé, utilisé par les institutions, si on le prend en tant que tel, oui, on a envie d'un vivre ensemble, etc. Sauf que tel qu'il est utilisé comme ça, il vise à masquer les inégalités, à les invisibiliser pour valoriser la paix sociale par opposition à la justice sociale. C'est toujours pareil.
L'utilisation des mots comme habitant et habitante, citoyen, citoyenne, va souvent de pair avec la notion d'empowerment, souvent traduit en français par pouvoir d'agir. Il s'agirait de donner du pouvoir d'agir aux personnes. Ça paraît cool comme ça au premier abord, mais selon Adeline de Lépinay, c'est surtout un moyen de s'offrir la paix sociale à peu de frais.
La notion d'empowerment, à la base, elle vient des mouvements sociaux et notamment du féminisme noir aux États-Unis. C'est une notion qui nous concerne nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on vit en soi-même, collectivement. C'est cette impression d'avoir vécu quelque chose, généralement par la lutte, en se disant « Waouh, on a été capable de faire ça !» Et c'est ce sentiment-là de « Waouh !» C'est ça, l'empowerment. Et ça, c'est une capacité, c'est un développement de la capacité à réussir à agir collectivement. Ce mot a été complètement récupéré par la doxa libérale, notamment la Banque mondiale, le FMI, etc., qui s'est dit « Ah, mais c'est super, des gens qui font « Waouh !» Ça va nous permettre de contourner la grille de lecture en termes d'oppression. C'est-à-dire que puisque les gens arrivent par leurs propres moyens à se dire « Waouh, on en est capable », eh ben c'est que c'est par eux-mêmes et par elles-mêmes qu'il faut qu'ils s'en sortent. Et ça, c'est complètement compatible avec la lecture libérale du monde. D'un processus autoconstitué où par nous-mêmes on développe notre capacité à agir sur la société, il y a une récupération qui fait que les institutions qui sont la cause de notre et qui valident et qui perpétuent l'exploitation, l'oppression, nous disent finalement « Eh ben sortez-vous-en par vous-même, prenez-vous en main ». Ce sera beaucoup plus... pour votre dignité, c'est beaucoup mieux. Et donc, on est renvoyé à notre propre dignité pour s'en sortir par soi-même dans une société finalement inchangée. Donc, en fait, cette lecture libérale de l'empowerment, elle permet de ne pas transformer la société puisque c'est à chacun et chacune de s'en sortir et de se prendre en main pour s'en sortir. Ce qui est extrêmement pernicieux parce que, évidemment, c'est positif de réussir à se prendre en main et de réussir à s'en sortir. Je le souhaite à tout le monde. Mais que ce soit l'institution étatique au service du capitalisme qui perpétue l'exploitation et les oppressions que je subisse, qui me dit « Eh ben, prenez-vous en main et sortez-vous-en par soi-même », ça, c'est une violence de plus, en fait. Donc, cet empowerment-là, lu comme ça de façon libérale, il est extrêmement pernicieux et c'est compliqué parce qu'on est sur un fil. C'est toujours ce fil entre libertaire et libéral qui est ténu, mais qui est très, très net. Le libéral dit « c'est à chaque individu de s'en sortir par lui-même et cette croyance dans le mérite, dans le contrat, etc. Là où la lecture libertaire met la responsabilité collective au centre de la capacité des individus à se réaliser. Et donc, dans cette lecture de l'impuissance, qui est intéressante parce que l'impuissance, c'est quelque chose qui existe réellement et qui est une cause de souffrance psychique très nette pour plein de gens dans la société dans laquelle on est, mais il y a une confusion entre les causes et les conséquences. On ne lutte pas contre l'impuissance. L'impuissance est une conséquence d'oppression, d'exploitation. Et donc, on peut faire des choses pour améliorer la situation d'impuissance, et c'est souhaitable, mais on met des pansements pour essayer d'améliorer les situations, et il faut le faire, parce que c'est des situations de souffrance, etc. Il faut le faire. Il n'empêche que pour lutter contre l'impuissance, la chose la plus efficace à faire, c'est de lutter contre les oppressions et l'exploitation qui la créent.
Jusqu'ici, Adeline de Lépinay nous a présenté deux manières de nommer le « nous » et le « eux ». Elle nous a d'abord parlé de catégories qui mettent en avant la division en classes de la société comme « prolétaire vs bourgeoisie » ou « exploité vs exploiteur ». Elle a aussi parlé des catégories d'habitants et habitantes qui, à l'inverse des premières, sont dépolitisantes car elles invisibilisent les rapports sociaux d'exploitation. Elle propose aussi une critique du terme de « peuple » que Jean-Luc Mélenchon décrit comme l'acteur central de la conflictualité sociale aujourd'hui.
Une troisième façon de se nommer, c'est de se nommer en tant que peuple ou en tant que 99%. Donc ça, c'est
Adeline de Lépinay.
C'est pas mal en place, notamment depuis les mouvements des places du début des années 2010. Voilà, c'était suite à la crise de 2008 aux États-Unis avec Occupy Wall Street, etc. Et là, en fait, on se définit comme les 99% contre quoi ? Contre les 1% des plus riches. Et en fait, là, on est... Encore une fois, pas dans un rapport... on ne prend pas en compte les rapports sociaux structurels qui organisent la société, mais il s'agit juste, entre guillemets, parce que c'est déjà pas mal, mais bon, il s'agit juste de réduire les inégalités. Et finalement, ça revient à vouloir moraliser le capitalisme, démocratiser la démocratie, plutôt que réellement transformer les choses et transformer les rapports sociaux et abolir le capitalisme. Donc on est plus à vouloir canaliser le capitalisme financier et améliorer la façon dont la société fonctionne. Donc pareil, je pense que c'est moins opérant, c'est beaucoup plus flou, puisqu'on ne parle pas en termes de classe sociale, c'est beaucoup plus flou que de parler en termes de travailleurs, travailleuses, exploités, opprimés, où là on sait où on se situe, alors que là les 1%, c'est très flou, c'est les ultra-riches. Alors oui, les ultra-riches, c'est un problème, il n'y a pas à tortiller là-dessus, mais il n'empêche que la société est structurée autrement que juste avec tout le monde et quelques ultra-riches. Donc voilà, c'est cette définition-là qui, je pense, a vraiment un impact sur comment on se regroupe et comment on va lutter. Le problème en utilisant les termes de citoyens, citoyennes, habitants, habitantes, et même peuple et 99%, ça laisse à penser qu'on est tous et toutes, ou à la limite, sauf quelques-uns, dans le même bateau. Et que donc, on a tous et toutes les mêmes problèmes et tous et toutes les mêmes intérêts à les résoudre, avec la même perspective de vivre ensemble, etc. Donc il n'existerait pas de rapport d'oppression et d'exploitation, c'est juste que c'est mal redistribué, on a mal organisé ça, il faut améliorer la démocratie, il faut améliorer les choses, voilà, et puis ça, pour que ça aille mieux, quoi. Donc ça, ça fait que... Enfin, on n'a vraiment pas la même lecture de la société, et pour de vrai, on ne lutte pas, on ne peut pas lutter réellement pour un projet commun si on n'a pas cette grille en commun. Alors que si on est en système de lutte de classe, on sait, on voit bien où se situe le problème et à croiser avec les autres oppressions systémiques. Mais voilà, si on est dans un système de lutte de classe, on va lutter dans une perspective réformiste. Il y en a qui vont lutter pour avoir un système salarial parfaitement sécurisant. Et puis si on veut pousser à un projet révolutionnaire, on va aller vers l'abolition du salariat et l'abolition du capitalisme. Et donc là, on sait contre quoi on lutte et dans quel projet. Quand on est citoyen, citoyenne, habitant, habitante, à part avoir un meilleur cadre de vie, etc., qui sont des revendications, encore une fois, hyper importantes et parfaitement légitimes, mais en termes de transformation de la société, c'était pas réellement un projet de transformation sociale.
La sociologue et militante féministe Aurore Quéclin s'est aussi interrogée sur la manière de nommer le « nous » et le « eux ». Elle aussi critique l'utilisation du terme « peuple », et notamment la manière dont Jean-Luc Mélenchon la mobilise dans son dernier ouvrage.
D'un côté, le terme de « peuple », en quoi est-ce qu'il pose problème ? centralement parce qu'il va fonder l'identité révolutionnaire autour d'une nation, d'un pays, d'une délimitation géographique, territoriale, plutôt qu'autour d'une classe. Et ça, ça pose problème, et je pense qu'on en reparlera, parce que ça efface justement les enjeux de classe et les enjeux économiques au profit d'une identité qui est fondée sur la nation. Le fait qu'en fait, on vit dans un monde où la production ne s'effectue pas du tout, plus du tout à l'échelle d'un seul pays, mais vraiment à l'échelle de l'ensemble des pays, où il y a vraiment une division internationale du travail. On assiste notamment à toute une partie de la production qui est délocalisée à l'échelle internationale. Et du coup, ça semble d'autant plus bizarre de fonder son analyse dans les contours restreints d'une nation, d'un pays, alors qu'on voit bien que le capitalisme lui-même, il fonctionne à une échelle internationale.
Adeline Delépinay pointe aussi les dérives nationalistes que permettent de tels arguments.
L'intérêt peut-être de la notion de peuple ou de 99%, c'est que ça permet de regrouper largement, parce que ça permet d'exprimer une colère sans trop désigner de coupable, et donc finalement de regrouper tous les gens en colère sans immédiatement avoir une discussion politique en termes d'analyse. Et donc, c'est intéressant quand on cherche à regrouper le plus largement possible. Ça permet aussi de conscientiser l'injustice sociale, de dire qu'il y a de l'injustice. Et ça, déjà, c'est un grand pas pour la mobilisation. Mais ça crée vraiment un flou politique parce que ce n'est pas basé sur des marqueurs politiques, sur des fondamentaux. Et donc, ça ouvre la porte à un certain confusionnisme. Et notamment, celui auquel je pense, c'est le rapport au nationalisme. Et on peut voir que si on se définit en tant que peuple, il y a pas mal de mouvements, y compris à gauche, qui peuvent, dans leurs argumentaires, amener la question des frontières nationales comme étant une protection, par exemple, pour les conditions de vie économiques à l'intérieur de ces frontières nationales. Et ça, on n'est plus d'accord, quoi. Donc, ce flou-là, politique, les notions de peuple et de 99% ne permettent pas de clarifier, ça fait que on ne sait pas contre quoi on lutte, parce que on peut tout à fait lutter contre le néolibéralisme, contre le capitalisme, contre l'État, contre l'ordre établi. Toutes ces luttes-là, on peut les mener avec des projets de gauche aussi bien qu'avec des projets réactionnaires. Et donc, c'est là où c'est important. On peut se regrouper au début en se pensant peuple ou 99%, mais il faut avoir ces discussions politiques-là, parce que sinon, on peut très bien ne pas être du tout d'accord et avoir des projets très différents.
Bien que les personnes qui utilisent le mot « peuple » ont abandonné la terminologie marxiste qui oppose la bourgeoisie au prolétariat et qui fait de cette lutte le moteur de l'histoire, elles n'ont pas abandonné l'idée d'un antagonisme, d'un « eux » et d'un « nous ». Et selon Jean-Luc Mélenchon, face au peuple, il y aurait l'oligarchie. Une catégorie qu'Aurore Quéclin critique également.
Le deuxième aspect qui me questionne, c'est l'autre entité qui définit du coup comme l'ennemi du peuple, c'est-à-dire l'oligarchie, qu'il distingue de la bourgeoisie traditionnelle. Il considère que ce terme et du coup cette classe contient la bourgeoisie traditionnelle, mais qu'elle est en fait différente par rapport à d'autres étapes finalement de la bourgeoisie, parce qu'il s'agit d'une classe possédante qui à la fois a de plus en plus de pouvoir et qui à la fois se rétrécit de plus en plus. C'est un peu les deux caractéristiques fondamentales du terme. Et par ailleurs, même si la définition de l'oligarchie dans son livre n'est pas toujours très claire, il semble l'associer en réalité beaucoup à la notion de finance. Il parle beaucoup d'oligarchie financière. Donc finalement, on pourrait dire en quelque sorte qu'il s'agirait presque de la bourgeoisie financière si on pousse un peu jusqu'au bout son raisonnement. Et ça, ça pose un autre problème à mon sens, qui est celui de donner l'impression finalement que l'entité à laquelle on devrait s'opposer, c'est finalement presque une partie de la bourgeoisie, une partie du capitalisme, cette question de la classe financière, comme si quelque part il y avait de l'autre côté une autre forme de capitalisme possible, une autre forme, voire de capitalisme qui serait souhaitable, une forme de capitalisme à visage humain avec plein de guillemets, et que finalement le seul problème à l'heure actuelle, ce serait cette dernière mutation du capitalisme, sa version financiarisée. Et ça, évidemment, ça pose question et on voit que du coup, l'enjeu derrière le terme, ce n'est pas seulement de caractériser à nouveau frais la classe possédante, mais c'est des enjeux en réalité stratégiques de conception de eh bien, contre quoi on se bat, contre quel système on se bat. Est-ce qu'on se bat contre le système capitaliste dans son ensemble, quelles que soient finalement ses dernières évolutions, ou est-ce qu'on se bat contre une version du capitalisme en pensant qu'un capitalisme mesuré serait possible? Et moi, j'ai l'impression quand même que c'est ce qui se cache derrière l'usage de ces mots.
Adeline Delépinay.
La question, en fait, c'est quand on se regroupe, quels sont nos intérêts communs et quel est notre intérêt commun à transformer la société? Le peuple, c'est quoi? Qu'est-ce qui constitue le peuple? C'est très, très flou. On n'est pas, le peuple, c'est pas un groupe social qui serait uni par une condition objective qui lui donnerait un intérêt commun. C'est-à-dire quand on est une assemblée de femmes, par exemple, elle va très vite trouver des motifs d'insatisfaction dans la société et des luttes à mener et des améliorations à mettre en place. Une assemblée de salariés, un syndicat, il voit très vite ce qu'il peut faire. Une assemblée de personnes racisées voit très vite aussi quels sont ses problèmes et sur quoi on va essayer d'agir. Les mouvements des places, par exemple, qui se définissent donc généralement par peuple ou 99%, en fait, on a vu que très souvent, ils ont eu du mal à définir leurs objectifs et à passer à l'action, parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt commun? C'est quoi la condition objective qui réunit toutes les personnes qui sont là et qui ont envie d'un changement social? Mais la catégorie de peuple est trop abstraite, elle donne une grille de lecture qui ne permet pas d'agir et qui ne permet pas de lire la société et d'avoir une action dessus, je pense.
On a déjà vu que le flou qu'entretiennent les termes qui refusent de nommer l'exploitation et la division en classes de la société favorise des récupérations, notamment conspirationnistes ou nationalistes. Bien qu'Adeline Delépinay ne rejette pas totalement l'utilisation du terme « peuple », elle peut même le trouver pertinent temporairement à des fins stratégiques, elle met en garde contre une autre forme de récupération qui le rend possible.
Il y a des luttes qui se veulent larges, qui du coup n'utilisent pas les mots exploitation, prolétariat, même capitalisme. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs façons de l'analyser. Il y a, je pense, une façon optimiste qui est de dire on veut regrouper largement, donc on ne va pas utiliser des mots qui clivent, mais on n'en pense pas moins et une fois qu'on luttera ensemble, on avancera dans ces directions-là. Ça reste à prouver, mais en tout cas, je pense que ça, c'est à prendre en compte et je pense que ça peut être valable d'une certaine façon. Mais il y a aussi des mouvements qui, en fait, ne visent pas l'abolition du capitalisme et ne luttent pas pour la fin du capitalisme, mais pour un aménagement, une moralisation du capitalisme. Et ça, par exemple, dans le champ écologique, ça existe beaucoup et c'est ce qui permet très clairement la récupération de ces luttes-là par le capitalisme, qui est donc quand même la grande force, et de réussir à récupérer les critiques qui lui sont faites. Et d'une part, ça empêche d'aller réussir ces luttes-là, parce que, selon moi, une lutte écologiste n'est pas possible sans lutter contre le capitalisme, puisque le capitalisme est quand même à la base des problèmes, des questions écologiques. Aussi, ça permet de complètement récupérer ces revendications-là. Et typiquement, ça, l'histoire nous le montre plein de fois. C'est-à-dire que ce soit la Révolution française 1789 en France, la Révolution tunisienne 2011 ou des choses comme ça, c'est des révolutions qui ont démarré portées par des revendications sociales et qui, en fait, se sont terminées sur des revendications d'une classe intermédiaire qui voulait juste des améliorations démocratiques. Et les revendications sociales sont passées à la trappe. Et ça, si on n'est pas au clair sur ce contre quoi on lutte, on ouvre la voie à ces récupérations-là qui font qu'une classe intermédiaire n'a pas forcément intérêt matériellement à renverser le capitalisme. Elle y trouve suffisamment son compte, même si peut-être théoriquement elle se dit « Ah oui, ce serait bien une autre société », mais enfin matériellement, ça va à peu près. Et donc, qui va se contenter d'améliorations démocratiques relativement atteignables, puisque le système va lâcher sur ces revendications-là, justement pour rétablir la paix sociale et ne pas lâcher sur les revendications sociales, ce qui nous empêche d'aller jusqu'à une réelle lutte contre le capitalisme.
Power to the people. Power to the people. Power to the people.
Aurore Quéclin.
Je pense qu'au-delà de la question du mot, ce qui se joue, c'est ce qu'on met derrière, et aussi eh bien, quels mots en fait, vont être réappropriés largement ou non. Donc on peut avoir le mot le plus parfait d'un point de vue théorique et politique, à un certain stade, s'il n'est pas approprié largement, on s'en fiche quelque part. Mais néanmoins, évidemment que j'ai des propositions alternatives, ceci ayant été dit. D'abord, concernant le « nous », quel serait le meilleur terme ? Moi, j'ai l'impression qu'il faut conserver cette préoccupation d'actualiser le terme de prolétariat dans une perspective justement d'être davantage audible. Le terme de prolétariat dans l'imaginaire collectif est quand même très associé au XIXe siècle. Il semble un peu passéiste. Et du coup, je trouve que pour que le « nous » puisse s'identifier justement à un terme, il faut trouver un terme qui parle. Mais dans le même temps, on essaye de l'actualiser par rapport à celui de prolétariat en donnant voilà, une connotation plus actuelle qui est un certain écho dans les consciences contemporaines. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est assez facile de substituer au terme de prolétariat celui de travailleurs et travailleuses parce que il conserve en fait fondamentalement les connotations qui sont liées au terme de prolétariat en montrant bien que ce qui est central dans la définition du nous, c'est que nous sommes celles et ceux qui devons travailler pour vivre, qui n'avons, selon la terminologie classique marxiste, que notre force de travail comme tout bien à vendre sur le marché. Et donc, avec ce terme de travailleur-travailleuse, on conserve cette idée fondamentale. Bien sûr que le terme inclut les chômeurs et les chômeuses ou celles et ceux qui ne sont pas, pour diverses raisons, en train de travailler à l'instant T, soit parce qu'ils sont retraités, soit pour toute autre raison. L'enjeu, bien sûr, autour du terme, c'est pas de dire que le sujet révolutionnaire, ce serait celles et ceux qui travaillent effectivement à l'instant T, mais plutôt celles et ceux qui sont obligés de travailler pour vivre, qui n'ont rien d'autre que leur travail, que leur force de travail. Et pourquoi est-ce que c'est important de montrer ça? Parce que ça montre justement bien le décalage entre le fait de ne rien posséder, de ne décider en rien, ni économiquement, ni politiquement, alors même qu'on voit que toute la société fonctionne sur notre travail, sur notre activité. Et c'est cette contradiction, à mon avis, qui est essentielle et qu'il faut réussir à synthétiser autour du terme qu'on emploie. Et deuxième précision, évidemment que autour du terme de travailleurs et travailleuses, autour de cet enjeu de la classe sociale, il ne s'agit pas d'avoir une vision, je dirais, purement économiciste, qui dirait que en fait, le seul enjeu, c'est la classe sociale et on ne va pas penser de façon croisée les enjeux féministes, LGBT, antiracistes, etc. C'est évidemment avoir une vision actualisée, là aussi, du terme de travailleurs, travailleuses, en y voyant aussi ces connotations-là. Et pour donner un exemple que je connais bien, qui est celui du féminisme, bien sûr qu'il s'agirait d'inclure dans la catégorie justement le travail spécifique des femmes, notamment ce travail qui est méconnu comme travail, invisibilisé comme travail, le travail domestique, celui qui a lieu dans le cadre familial, dans le cadre de la famille, et qui consiste à produire et à reproduire à la fois au quotidien et à travers les générations les travailleurs et les travailleuses, notamment en assurant toutes les tâches domestiques de préparation des repas, soins de la maison, éducation des enfants, etc. etc. Donc bien sûr que on inclut dans le terme travailleur-travailleuse eh bien, ce travail-là qui est essentiel pour le fonctionnement capitaliste. Et donc on inclut dans l'analyse de classe une dimension féministe, une dimension de genre. Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, de figer ces catégories autour du seul enjeu de la classe, mais bien d'en avoir en quelque sorte une forme de lecture qu'on dirait, avec les termes d'aujourd'hui, intersectionnelle, qui nous pousse à pousser plus loin l'analyse, reconceptualiser la classe en croisant, par exemple, classe, genre, race.
Après avoir critiqué la notion de peuple, Aurore Quéclin propose une autre manière de nommer et de penser le « nous » en réactualisant les termes de « travailleurs » et « travailleuses ». Elle nous explique l'importance politique du choix de ces termes.
Pourquoi est-ce que cette question de la terminologie et des vocables utilisés est importante? Ça donne l'impression finalement que c'est une question très théorique et qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux pratiques. Or, moi, j'ai l'impression qu'elle est véritablement centrale dans la période qu'on traverse actuellement, parce qu'il s'agit vraiment, à l'heure actuelle, d'être en capacité de reconstruire ce qu'on appellerait, selon, encore une fois, le vocable marxiste, une forme de conscience de classe.
Nous avons aussi interrogé Guillaume Davranche, de l'Union communiste libertaire, car il a participé à un dossier intitulé « Les classes sociales, l'éternel retour ». Bien qu'il partage la lecture marxiste de la société des invités que vous venez d'entendre, Guillaume Davranche, lui, accorde moins d'importance aux mots. Pour lui, peu importe comment on s'appelle, tant qu'on est au clair sur les rapports d'exploitation.
Spontanément, les gens ne diront pas prolétariat, hein, parce que c'est vraiment un terme analytique, j'allais dire militant, quoi. Voilà, prolétariat. Plein de gens peuvent se dire qu'ils appartiennent au peuple. Voilà, ça c'est quand même le mot qui, depuis les années 2010, est quand même vachement revenu en force, quoi. Du fait de la France insoumise, par exemple, parce que c'est vraiment le langage mélenchonien, mais même le PCF avait commencé à employer ce mot peuple dès les années 2000, je me souviens. Et c'est revenu avec les gilets jaunes, etc. Bon, qu'on dise prolétariat ou peuple, peu importe, hein. Il vaut mieux avoir la chose, même si on n'a pas le mot. Ce qui est important, c'est d'avoir cette conscience globale, cette conscience un peu de classe, que grosso modo, dans ce pays, il y a des producteurs, des productrices, il y a des travailleuses, des travailleurs, et qu'ils ont des intérêts divergents des classes possédantes, quoi. Voilà. Nous, on va s'efforcer... En tant que militant révolutionnaire, on va s'efforcer de politiser ça, d'amener un peu de lumière là-dessus, voilà, de bien expliquer que, attention, c'est pas un truc entre les pauvres et les riches, ce genre de choses qui veut pas dire grand-chose, c'est pas entre les riches et les pauvres, c'est pas entre le peuple et les élites, parce que bon, ça c'est vraiment un langage qui peut nous mener vers des trucs populistes d'extrême droite, c'est pas forcément très intéressant, mais on doit, nous, en tant que révolutionnaires, s'efforcer de faire comprendre que, non, ce qui est important, c'est voilà, qui produit. Qui en fait fait la richesse de la société, qui en fait fait en sorte que la société tourne, c'est les travailleuses et les travailleurs. Le jour où ils s'arrêtent, le jour où ils croisent les bras, la société s'arrête, quoi. Voilà. Au contraire, les actionnaires, les capitalistes sont des gens qui globalement sont pas utiles, quoi. Le jour où ils disparaissent, ils nous manqueront pas, quoi. La société elle continuera à tourner sans eux très très bien. Voilà. Donc on s'efforce plutôt de politiser. Ce ressenti instinctif, on va dire, d'un fossé entre les élites et le peuple, on va essayer de le politiser en parlant de producteurs, productrices, travailleuses, travailleurs d'un côté, et de l'autre côté, actionnaires, capitalistes, classes possédantes et parasites sociaux, quoi.
Ce dont parle ici Guillaume Davranche, mais c'est une préoccupation que nous avons également rencontrée chez les deux autrices interrogées, c'est de reconstituer une conscience de classe. C'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un même camp, avec des intérêts communs, on va dire les exploités, les prolétaires. Des intérêts qui sont clairement opposés à ceux du camp d'en face, les exploiteurs ou la bourgeoisie. Nous verrons dans un prochain épisode que la construction de la conscience de classe est un enjeu stratégique majeur, tout du moins dans la vision marxiste du changement social. Identifier le « eux » et le « nous » permet également, selon Aurore Quéclin, de rappeler le fait que malgré les dominations spécifiques qui traversent notre camp, de genre, de race, mais aussi liées à notre validité par exemple, nous sommes du même côté de la barricade, et que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra gagner le match.
Et pourquoi c'est d'autant plus important,
Aurore Quéclin,
à l'heure actuelle, il me semble, c'est que ces questionnements-là, d'abord, ils traversent l'ensemble de la société, ils traversent... voilà, c'est les travailleurs et les travailleuses, mais ils traversent aussi Et moi, c'est de là d'où vient mon militantisme. Moi, je viens du militantisme féministe. Il traverse aussi les groupes qui luttent contre les oppressions, notamment contre le sexisme, contre les LGBT-phobies, etc. Des groupes qui sont très actifs et actives dans la déconstruction au quotidien du langage, des pratiques qui reproduisent la domination, mais qui peuvent en venir à se focaliser uniquement à une transformation à une échelle individuelle ou inter-individuelle, en se disant que finalement, le pouvoir, il est en chacun de nous. Chacun de nous, nous produisons et nous reproduisons des rapports de domination. Et finalement, en rester uniquement à ce niveau-là de lutte. Et à mon avis, dans ce contexte-là, il y a d'autant plus une importance à redire que, bien sûr, si à l'échelle inter-individuelle, on produit, on reproduit les dominations, nous ne sommes que des reflets, des symptômes de rapports de domination qui existent plus globalement dans l'ensemble des structures de la société, qui existent dans les rapports de production, qui existent dans les lieux centraux du pouvoir gouvernemental notamment, et qu'il ne faut jamais oublier cette dimension-là qui est la dimension centrale et qu'à un moment, il faut reposer clairement qui est l'ennemi et du coup avoir les bonnes terminologies pour pouvoir le penser. Donc, voilà, ce long développement pour dire que c'est un enjeu qui dépasse très largement des questionnements théoriques, mais qui va s'incarner directement dans nos pratiques militantes.
Mais de grisailles entourées parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule, la rage, car c'est le pire que nous frôlons, la rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour, tant de grands savoirs ancestraux, la rage, trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité, la rage, car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges, la rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux, la rage, parce que mes propos dérangent, faut aucun. Du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Aurore Quéclin.
La critique que je fais de la notion de peuple, je la déploie dans un cadre national qui est spécifique, qui est le nôtre, qui est le cadre de la France. On est face à un pays qui est un pays absolument dominant à l'échelle internationale, et ce, depuis des siècles. Un pays qui a été un pays colonisateur, qui demeure un pays néocolonisant, a une position spécifique à l'échelle internationale. Et ce qui fait qu'en fait, en appeler précisément à la notion de peuple dans ce cadre-là ne fait que renforcer finalement l'impression au sein de ce pays-là qu'il serait légitime à agir comme il le fait Et au contraire, il me semble que déconstruire cette notion de peuple, fonder l'identité révolutionnaire autour d'un sujet qui serait bien plutôt un sujet de classe, mais aussi un sujet internationaliste, contribue à déconstruire la puissance qu'incarne la France à l'heure actuelle. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'en tout temps, en tout lieu, la notion de peuple, elle ne puisse pas être compréhensible et utilisable dans certains contextes, notamment dans des contextes de colonisation, dans des contextes d'oppression nationale, qui font que, en tout cas, au moins dans un premier temps, qui va fonder et rendre possible la lutte, ça va être d'en appeler à cette notion de peuple qui va souder les dominés entre eux. Le meilleur exemple qu'on en a à l'heure actuelle, c'est justement l'exemple de la Palestine, où en fait, on est face à un peuple qui est colonisé, ça va même au-delà de la colonisation, qui est dans une situation de destruction quasiment totale physique. Eh bien, évidemment qu'en appeler à la notion de peuple palestinien dans ce contexte-là, ça n'a pas du tout le même sens que d'en appeler à la notion de peuple dans un contexte qui est le nôtre, qui est celui de la France. On voit bien à quel point c'est sans commune mesure et ça ne prend pas du tout le même sens. Donc, il ne s'agit pas de rejeter la notion de peuple de façon atemporelle, permanente, etc., mais de toujours se poser la question du contexte. Et à mon avis, d'ailleurs, un des problèmes dans l'usage qu'en fait Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est qu'il oublie totalement de contextualiser ce qu'est la France à l'heure actuelle, c'est-à-dire une puissance dominante, impérialiste, colonisatrice, et contre laquelle on lutte. Et en appeler à la notion de peuple, c'est dans ce contexte-là, c'est effacer précisément toutes ces dimensions-là, et c'est d'autant plus problématique.
On notera aussi que lutte de libération nationale et lecture du monde sous le prisme de la lutte des classes ont souvent fait bon ménage. Pour de nombreux marxistes, la libération des peuples opprimés était une étape parfois nécessaire dans la lutte des classes. Marx, par exemple, soutenait l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis de l'Angleterre. Dans l'intérêt des Irlandais et des Irlandaises surexploités par l'Angleterre, bien sûr, mais aussi dans l'intérêt de la classe ouvrière anglaise, qui était mise en concurrence avec ses voisins irlandais. On vous met en lien une vidéo du youtubeur Passe du Ring qui justifie, depuis un point de vue marxiste, son soutien aux luttes de libération nationale. Il explique que ce qui est important, c'est de déterminer la contradiction principale, l'expression est de Mao, qui structure la société. En clair, il s'agit d'identifier ce qui impacte le plus la vie des personnes. En France, aujourd'hui, l'antagonisme de classe est la contradiction principale. Mais avant la révolution de 1789, la contradiction principale était le servage. Ce n'est qu'une fois que celle-ci a été résolue que la contradiction de classe a pu apparaître. Dans les pays colonisés, il prend l'exemple du Vietnam au moment des luttes de libération, mais aussi plus récemment de la Palestine, ce qui détermine le plus la vie et malheureusement la mort des personnes, c'est la colonisation. Et cette contradiction a besoin d'être dépassée pour que la contradiction de classe soit traitée.
Restez là, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Méfiez-vous des pièges ! Pièges à oiseaux ! Pièges à rats ! Pièges à
On va résumer ce qu'on s'est dit jusque-là. On a vu qu'il y a plusieurs manières de dire le « nous » et le « eux », qui sont autant de manières de penser la conflictualité sociale. Les termes d'habitants et habitantes, citoyens, citoyennes, masquent les fractures de classe qui structurent la société en faisant croire qu'on est tous et toutes sur le même bateau. Avec cette lecture, il n'y a plus d'antagonisme. Il n'y a pas de groupe aux intérêts distincts qui s'opposent, mais des individus qui, ensemble, doivent faire plus d'efforts pour améliorer leurs conditions. Ceci au détriment d'un projet de transformation sociale. Les termes de peuple contre l'oligarchie, de 99% contre les 1%, ont le mérite de rappeler que nous ne sommes pas dans le même bateau, et que la société est divisée en groupes sociaux avec des intérêts opposés. Mais le caractère flou de ces démarcations pose plusieurs problèmes, car il ne nous aide ni à penser le « nous », ni le « eux ». Ces termes entravent le passage à l'action, car difficile de dégager un objectif commun entre des gens qui ont des intérêts divergents. En mettant l'accent sur les 1% ou sur l'oligarchie, ces vocables favorisent une lecture réformiste, voire confuse du monde. Le problème n'est plus l'existence du capitalisme et le fait que l'on soit obligé de vendre sa force de travail pour vivre, mais certaines de ses dérives, comme la financiarisation ou, dans une version complotiste, la faute aux Illuminati ou aux Juifs. Ces termes imprécis nous détournent donc d'une lutte contre le capitalisme et peuvent être récupérés pour servir des projets réformistes ou nationalistes. Pour ces raisons, nos invités favorisent des termes qui visibilisent les conflits et les rapports sociaux d'exploitation qui traversent la société. Ainsi, Yale propose de mettre à jour l'opposition prolétariat contre bourgeoisie en proposant des mots plus appropriables comme « travailleur » contre « patron et actionnaire » ou encore « contre « classe dominante et possédante » ou encore « exploité contre « exploiteur ». Ces termes doivent cependant être actualisés en prenant en compte les formes d'exploitation de race et de genre. Ce type de vocable contribue aussi à construire une conscience de classe qui a été dégradée par les évolutions du capitalisme ces dernières décennies. C'est-à-dire clarifier qui fait partie de notre camp et qui est notre ennemi, ce qui facilite le passage à l'action. Yale s'accorde aussi pour dire que le mot « peuple », dans les contextes coloniaux, est pertinent, car dans ces situations, le rapport colonial détermine plus la vie des personnes que le rapport de classe. Certains de nos invités disent aussi que, dans notre contexte français, malgré ses imperfections, le terme « peuple » peut être utilisé de manière stratégique et temporaire, à condition de mettre en avant l'opposition de classe. On pourrait s'arrêter là, et considérer qu'on a fait le tour des manières de penser et nommer la conflictualité sociale aujourd'hui. Mais ce serait oublier un large pan du camp révolutionnaire qui ne se reconnaît dans aucune de ses lectures. Pour schématiser, il y a deux camps. Il y a les marxistes et le reste du monde. Pour le dire de manière moins polémique et pour se la péter un peu, on peut parler de vision classiste et aclassiste. La vision classiste d'abord. Elle est portée par les personnes qui, comme les invités interviewés jusqu'ici, pensent que c'est la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire. Selon cette vision, ce sont en premier lieu nos conditions matérielles d'existence, et particulièrement notre place dans les rapports de production, qui va déterminer le fait que l'on va se révolter ou non. En clair, on se révolte parce qu'on est exploité et qu'on a intérêt à ce que ça change. Les personnes qui se revendiquent d'une perspective classiste, on pourrait dire aussi marxiste ou matérialiste, vont préférer des termes qui mettent en avant cette conflictualité de classe. Et l'autre camp, l'autre vision, c'est donc la vision aclassiste, ou idéaliste. Elle est portée par les personnes qui ont mis de côté la grille de lecture marxiste de la lutte des classes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils pensent nécessairement qu'il n'y a pas de classe sociale, mais la vision aclassiste postule que ce n'est pas en premier lieu notre place dans les rapports de production qui va déterminer notre révolte. Ce sont plutôt nos idées, d'où le terme idéaliste, notre expérience de vie, nos émotions, nos aspirations, notre rapport au monde, notre identité, nos valeurs, etc. La vision aclassiste du changement social n'est pas récente, mais elle a pris de l'ampleur depuis la fin des années 70 avec le déclin du marxisme. Citons deux exemples contemporains qui s'inscrivent dans la vision aclassiste du changement social. Prenons d'abord le Comité Invisible. C'est un collectif dont les livres vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires ont beaucoup inspiré l'extrême gauche. Lui ne s'adresse plus aux prolétaires, mais à ses amis, les personnes qui partagent ses idées et ses combats. Mais on peut aussi citer le vivant, comme dans l'expression « nous sommes le vivant qui se défend », qui est le nouveau sujet révolutionnaire d'une partie du mouvement écologique. On verra d'autres exemples dans la deuxième partie de l'émission. Dans cette deuxième partie, on reviendra aussi sur ces deux manières de concevoir le changement social, et on se posera plusieurs questions. Est-ce que le prolétariat existe encore, ou peut-on l'enterrer définitivement? Est-ce que la lutte des classes est terminée? Qu'est-ce qui fait qu'on fait la révolution? Nos conditions matérielles ou nos valeurs? On se demandera quelles conséquences concrètes les réponses qu'on donne à ces questions vont avoir sur nos pratiques de lutte. Avec qui on lutte? Comment on lutte? Contre qui ou contre quoi? Merci de nous avoir écoutés, on espère que cette émission nourrira votre réflexion et vos pratiques de lutte. À bientôt.
La première étape, c'est de raviver l'espoir et les fraternités qu'ils ont enterrées.
L'espoir c'est comme la base, il attaque, fait poum poum tchak tchak. Brûle le vice et la grâce, change le monde et surtout la face. Mes pensées sont belles mais sont pas toutes douces. J'ai des rêves, j'ai pas des gourous. Je fais des roumous pour que l'empire se retrouve sous loup. On va changer les fiches, on va manger les riches. Ils diront qu'ils sont foutus, on dira qu'ils sont goûtus. Ils veulent des bunkers et des niches, ils se protègent les miches. On va mettre les empires tout nus pour pas que les empires nous tuent. Le capitalisme n'est pas irremplaçable, racisme n'est pas irremplaçable. L'exploitation des peuples n'est pas irremplaçable. Si un autre monde est impossible pour votre mental frère, c'est que l'aliénation a fait son taf avec votre mental père. On vous laisse les émojis, on prend les références, les armes, la théorie. Obi-Wan Kenobi, si t'as pas de projet de société, d'humanité, viens pas nous affronter, te la raconter.
Ouais, t'as rien à raconter.
L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force à nos victoires. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force, force, force. La colère sur la table comme un foulec. Votre calme sert de cache-misère, de fausse maturité poubelle. Ça en a tout l'air, je vois la lumière au bout. Laissez-moi faire beaucoup, j'ai la veine dans le cou. Vegeta Son Goku, destin anormal. On se sent mal, ambiance bancale. Les petits on leur parle de fin du monde et d'angoisse. Que des remparts, ça rend compulsif rentable. Le désespoir est capitaliste et occidental. Que des films et séries sans idéal. Pensez par des grosses productions sans idéal. Dans cinéma sans idéal. Vous savez pas qui fait. Vos concepts sont déprimés, fin d'humanité. Les petits vont tout recalibrer. L'heure n'est pas au constat, l'heure est aux portes de sortie. Sans projet on est des âmes et des corps vides. De la chair morbide. Point levé sert à rien sans message assorti. Vous éjectez du cockpit, mettez nos rêves sur orbite. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force à nos victoires. L'espoir est politique, parlons de nos victoires. Ils veulent tuer l'espoir, force, force.